Mais après tout, qu'est-ce que cette métaphore appelée couronne, ou plutôt, qu'est-ce que la monarchie? Est-ce une chose réelle, ou un nom, ou une fraude? Est-ce une composition de sagesse humaine, ou d'artifice humain, pour obtenir de l'argent d'une nation sous divers prétextes? Est-ce une chose nécessaire à une nation? Si cela est, en quoi consiste cette nécessité? Quel service rend-elle? Quelles sont ses occupations et quel est son mérite? Sa vertu réside-t-elle dans la métaphore ou dans l'homme? L'orfèvre qui fait la couronne en fait-il aussi la vertu? Opère-t-elle comme le bonnet de Fortunatus ou le sabre d'Arlequin? Rend-elle un homme sorcier? Enfin, qu'est-ce que c'est? Il paraît que c'est une chose dont la mode se passe, qui devient ridicule et qui est rejetée dans quelques pays comme inutile et dispendieuse. En Amérique, on la regarde comme une absurdité, et en France, elle est si fort sur le déclin que la bonté de l'homme et le respect pour son caractère personnel sont les seules choses qui conservent l'apparence de son existence. Si le gouvernement est, ce que M. Burke nous le décrit, une composition de sagesse humaine, je pourrais lui demander si la sagesse était alors tellement rare en Angleterre qu'il devint nécessaire de l'importer de Hollande ou de Hanovre. Mais je rendrai au pays la justice de dire qu'il n'en était pas ainsi, et que s'il en était ainsi, les Anglais n'ont pas bien choisi leur cargaison. La sagesse de tous les pays, lorsque l'on sait s'en servir à propos, est suffisante pour toutes ses fins, et il n'était plus besoin en Angleterre d'envoyer chercher un statuaire de Hollande ou un électeur de Hanovre qu'il ne l'était en Amérique de faire la même chose. Si un pays n'entend pas ses propres affaires, comment un étranger qui ne connaît ni ses lois, ni ses mœurs, ni sa langue les entendra-t-il? S'il existait un homme si éminemment plus sage que le reste de ses compatriotes, que sa sagesse devint nécessaire pour instruire une nation, on pourrait donner quelques raisons pour une monarchie. Mais lorsqu'en jetant les yeux sur un pays, nous remarquons comment chaque partie de ce pays entend ses propres affaires, et quand en portant nos regards sur l'étendue du globe, nous voyons que de tous les hommes qui l'habitent, la race des rois est celle qui a le moins de capacité, notre raison ne peut manquer de nous demander pour quel usage ces hommes sont-ils entretenus. S'il y a quelque chose dans la monarchie que nous autres Américains n'entendions pas, je souhaiterais que M. Burke voulût bien nous en instruire. Je vois en Amérique un gouvernement qui s'étend sur un pays 10 fois aussi grand que l'Angleterre et qui est administré régulièrement pour la 40e partie de la dépense que coûte le gouvernement d'Angleterre. Si je demande à un Américain s'il veut un roi, il me demande si je le prends pour un imbécile. D'où vient donc cette différence? Sommes-nous plus ou moins sages que les autres? Je vois en Amérique la généralité du peuple vivre dans une sorte d'aisance inconnue dans les monarchies. Et je vois que le principe de son gouvernement, qui est celui de l'égalité en droit, fait des progrès rapides dans le reste du monde. Si la monarchie est une chose inutile, pourquoi est-elle conservée quelque part? Et si elle est nécessaire, comment peut-on s'en dispenser? Toutes les nations civilisées seront d'accord que le gouvernement civil est nécessaire. Mais le gouvernement civil est le gouvernement républicain. Toute cette partie du gouvernement d'Angleterre, depuis la charge de constable jusqu'à celle de la magistrature, dans tous les départements, dans les sessions de quartier et dans les assises générales, sans en excepter même le jugement par jury, est de la nature des gouvernements républicains. Il n'y paraît aucune trace de la monarchie, excepté le nom que Guillaume le Conquérant imposa aux Anglais en les obligeant de l'appeler leur souverain seigneur le roi. Il est facile de concevoir qu'une bande d'hommes intéressés, tels que les gens en place, les pensionnaires, les gentilshommes de la chambre, les gentilshommes de la cuisine, les gentilshommes des commodités, et Dieu sait qui, trouvent autant de raisons pour le gouvernement monarchique que leurs pensions payées aux dépens du public leur rapportent. Mais si je demande aux fermiers, aux manufacturiers, aux négociants, à l'artisan et à tous les gens qui vivent de leur industrie, jusqu'aux dernières manœuvres, à quoi lui sert la monarchie? Je suis sûr qu'il ne pourra pas me répondre. Si je lui demande ce que c'est que la monarchie, il croit que c'est quelque chose qui ressemble à un bénéfice simple. Quoique les taxes d'Angleterre montent à près de 400 millions tournois, dites pour la dépense du gouvernement, il est cependant évident que le bon sens de la nation est ce qui la gouverne et qu'elle se gouverne par des magistrats et des jurys presque à ses propres frais sur des principes républicains exclusivement de la charge des impôts. Les honoraires des juges sont presque tout ce qui sort du trésor public. Considérant que tout l'intérieur du gouvernement est exécuté par le peuple, les impôts d'Angleterre devraient être les plus légers de toutes les nations de l'Europe, au lieu que c'est tout le contraire. Comme on ne saurait rendre compte de cette dépense extraordinaire du côté du gouvernement civil, il faut nécessairement examiner la partie monarchique. Quand les Anglais envoyèrent chercher Georges Ier, et quelqu'un plus sage que M. Burke se trouverait fort embarrassé de découvrir pourquoi on avait besoin de lui ou quel service il pouvait rendre, ils auraient dû au moins lui avoir imposé la condition d'abandonner le Hanovre. Outre les intrigues sans bornes de l'Allemagne, qui devaient s'ensuivre de ce qu'un électeur d'Allemagne était roi d'Angleterre, il y a une impossibilité naturelle de réunir dans la même personne les principes de la liberté et les principes du despotisme, ou, comme on l'appelle en Angleterre, du pouvoir arbitraire. Un électeur d'Allemagne est dans son électorat un despote. Comment donc pouvait-on s'attendre qu'il fût attaché au principe de la liberté dans un pays, tandis que son intérêt dans un autre était d'être soutenu par le despotisme? Cette union ne saurait exister, et on aurait bien pu prévoir que les électeurs d'Allemagne seraient des rois allemands, ou, pour me servir des expressions de M. Burke, prendraient le gouvernement avec mépris. Les Anglais ont été dans l'habitude de ne considérer un roi d'Angleterre que selon les rapports qu'il a avec eux. Au lieu que la même personne, tant que cette réunion existe, a un chez lui dans un autre pays, dont l'intérêt est différent des leurs et dont les principes de gouvernement sont opposés aux leurs. L'Angleterre ne peut être regardée par cette personne que comme une ville où il fait sa résidence et l'électorat comme son patrimoine. Les Anglais peuvent souhaiter, comme je crois qu'ils le font, un succès au principe de la liberté en France ou en Allemagne. Mais un électeur allemand tremble pour le sort du despotisme dans son électorat. Et le duché de Mecklembourg, où la famille de la reine actuelle gouverne, est dans la même misérable condition sous la verge du pouvoir arbitraire et ses habitants dans l'esclavage. Il ne fut jamais un temps où il devint plus nécessaire aux Anglais de surveiller avec circonspection les intrigues du continent que dans le moment actuel, et de faire une distinction entre la politique de l'électorat et celle de la nation. La Révolution de France a entièrement changé les rapports politiques entre la France et l'Angleterre comme nation, mais les despotes germaniques, la Prusse à leur tête, conspirent contre la liberté, et l'attachement de M. Pitt pour sa place et le crédit que ses liaisons de famille ont obtenu ne sont point des sûretés suffisantes contre cette intrigue. Comme tout ce qui se passe dans le monde devient un sujet d'histoire, je vais quitter ce sujet et donner une courte explication de l'état des partis et de la politique de l'Angleterre, comme M. Burke a fait de la France. Soit que le règne actuel ait commencé par le mépris ou non, c'est l'affaire de M. Burke. Il est cependant certain qu'il en eut grandement l'apparence. L'animosité de la nation, comme on doit s'en rappeler, fut très grande. Et si les vrais principes de la liberté avaient alors été aussi bien entendus qu'ils promettent de l'être aujourd'hui, il est probable que la nation ne se serait pas patiemment soumise à tant de contradictions. Georges Ier et Georges II savaient bien qu'ils avaient un rival dans la famille de Stuart, et comme ils ne pouvaient compter que sur leur bonne conduite, ils eurent la prudence de ne point faire paraître leurs principes allemands de gouvernement. Mais à mesure que la famille de Stuart s'éteignit, la prudence devint moins nécessaire. Les contestations entre les droits des habitants et ce que l'on appelle les prérogatives de la couronne continuèrent d'échauffer les esprits jusqu'à la conclusion de la guerre de l'Amérique et même quelque temps après. Lorsque tout à coup un calme soudain succéda, l'exécration fit place aux applaudissements et la popularité de la cour crut comme un champignon dans une nuit. Pour rendre compte de cette transition soudaine, il est à propos d'observer qu'il y a deux espèces de popularité. L'une excitée par le mérite, l'autre par le ressentiment. Comme la nation était divisée en deux parties, et que chacun de ces partis vantait le mérite de ses champions parlementaires pour ou contre les prérogatives, rien ne pouvait donner un choc plus général qu'une coalition subite entre ces mêmes champions. Leurs différents partisans, étant par ce moyen laissés dans l'embarras, et pleins de dégoût pour cette mesure, ne trouvèrent d'autre remède qu'en réunissant leur haine contre tous les deux. L'aiguillon du ressentiment étant alors plus fort que celui que la contestation sur les prérogatives avait occasionné, la nation abandonna tous les premiers objets de droit et ne chercha que celui de se satisfaire. L'indignation contre la coalition dissipa tellement l'indignation contre la cour qu'elle l'éteignit. Et sans aucun changement de principe du côté de la cour, le même peuple qui avait réprouvé son despotisme se joignit à elle pour se venger du parlement coalisé. La question ne fut plus alors sur l'objet qui était le plus aimé, mais sur celui qui était le plus haï. Et le moins haï passa pour être aimé. La dissolution du parlement coalisé, ayant fourni les moyens de gratifier le ressentiment de la nation, ne pouvait pas manquer d'être populaire. Et de là la popularité de la cour. Des transitions de cette espèce montrent qu'une nation est plutôt sous le gouvernement de ses passions que sous celui des principes fixés et immuables. Et lorsqu'elle est une fois lancée, quoique témérairement, elle se trouve forcée de continuer sa course afin de justifier ses premiers actes par sa persévérance. Elle approuve maintenant des mesures qu'elle censurerait dans d'autres temps et emploie tous les efforts de la persuasion sur elle-même pour étouffer son jugement. À la rentrée du nouveau Parlement, M. Pitt se trouva à la tête d'une majorité assurée et la nation le soutint, non par rapport à lui, mais parce qu'elle était résolue de le faire par vengeance contre un autre. Il s'introduisit à l'attention du public par un projet de réforme du Parlement, qui, dans ses effets, aurait été une justification de la corruption publique. La nation devait acheter les privilèges des bourgs pourris, au lieu qu'elle devrait punir ceux qui font un pareil trafic. Sans parler des deux niaiseries de l'affaire de Hollande et du million sterling par an pour payer la dette nationale, l'affaire qui se présente plus particulièrement à nos regards est celle de la Régence. Jamais, suivant moi, l'illusion ne fut présentée avec plus d'art et la nation plus complètement trompée. Mais pour rendre cela sensible, il sera nécessaire d'en examiner les circonstances. M. Fox avait avancé dans la Chambre des communes que le prince de Galles, comme héritier par succession, avait le droit en lui de prendre le gouvernement. M. Pitt s'y opposa, et en tant que son opposition fut restreinte à la doctrine, elle était juste. Mais les principes que M. Pitt maintint pour soutenir sa thèse étaient aussi mauvais, et même pires dans leurs conséquences, que ceux de M. Fox, parce qu'ils tentaient à établir une aristocratie sur la nation et sur la petite partie de représentation qu'elle a dans la Chambre des communes. Ce n'est pas ici la question d'examiner si la forme du gouvernement anglais est bonne ou mauvaise. Mais en la prenant telle qu'elle est, sans avoir égard à son mérite ou à son démérite, M. Pitt était plus éloigné du but que M. Fox. On la suppose composée de trois branches. C'est pourquoi, tant que la nation sera disposée à conserver cette forme, ces branches ont un établissement national, sont indépendantes l'une de l'autre et ne sont pas créées l'une par l'autre. Si M. Fox avait laissé le Parlement derrière et dit que le prince de Galles réclamait au nom de la nation, M. Pitt aurait donc alors été obligé d'opposer ce qu'il appela le droit du Parlement au droit de la nation. De la manière dont la question fut agitée, M. Fox prit la base de l'hérédité et M. Pitt la base du Parlement. Mais le fait est qu'ils prirent tous deux la base de l'hérédité et que M. Pitt prit la plus mauvaise des deux. Ce que l'on appelle Parlement est un composé de deux chambres, dont l'une est héréditaire et plus indépendante du Parlement que la couronne n'est supposée l'être. C'est une aristocratie héréditaire, prenant et maintenant des droits et une autorité irrévocable et inaltérable, tout à fait indépendante de la nation. Où donc était le mérite populaire d'élever ce pouvoir héréditaire au-dessus d'un autre pouvoir héréditaire, moins indépendant de la nation qu'il ne prétendait l'être lui-même, et d'absorber le droit de la nation dans une chambre qu'elle n'a ni le droit d'élire ni de contrôler. L'impulsion générale de la nation était juste, mais elle agit sans réflexion. Elle approuva l'opposition faite au droit maintenu par M. Fox, sans s'apercevoir que M. Pitt soutenait un autre droit inaltérable, plus éloigné de la nation. Quant à la Chambre des communes, elle n'est élue que par une très petite partie de la nation. Mais si l'élection était aussi universelle que l'impôt, ce qui doit être, elle ne serait cependant que l'organe de la nation et n'aurait pas de droits inhérents. quand l'Assemblée nationale de France résout une question, la décision est faite au nom de la nation. Mais M. Pitt, dans toutes les questions nationales, en tant qu'elles ont un rapport à la Chambre des communes, absorbe les droits de la nation dans son organe et rend l'organe la nation et la nation zéro. En un mot, la question de la régence était une question de 24 millions de livres tournois par an, attachés au département du pouvoir exécutif. Et M. Pitt ne pouvait avoir l'administration d'aucune partie de cette somme sans établir la suprématie du Parlement. Et quand cela fut fait, il était indifférent qui serait ou ne serait pas régent, puisqu'il devait être régent à ses dépens. Parmi les curiosités que cette grande discussion produisit, on trouve la métamorphose d'un grand sot en roi, son impression à un acte devant avoir l'autorité royale. Si donc l'autorité royale est un grand sot, elle n'est rien en elle-même, et une bonne constitution serait infiniment plus utile à la nation que ne valent à présent les trois pouvoirs dans leur état actuel. L'usage continuel du mot « constitution » dans le Parlement d'Angleterre prouve qu'il n'y en a pas, et que le tout n'est qu'une forme de gouvernement sans constitution et se constituant avec les pouvoirs qu'il lui plaît. S'il existait une constitution, on s'en rapporterait certainement à elle. Et la discussion sur tous les points constitutionnels se terminerait en produisant la constitution. Un membre du Parlement dit « ceci est une constitution », et un autre « cela est une constitution ». Aujourd'hui, c'est une chose, demain, c'en est une autre, tandis que ce débat prouve qu'il n'y en a pas. La Constitution est à présent le cheval de bataille du Parlement, il s'accommode à l'oreille de la nation. Autrefois, c'était la suprématie universelle du Parlement. Mais depuis les progrès de la liberté en France, ces phrases sont dures à l'oreille. Et le Parlement anglais a pris le mode de l'Assemblée nationale de France, sans en prendre la substance, de parler de Constitution. Comme la génération actuelle du peuple anglais n'a pas fait le gouvernement, elle n'est pas responsable de ses défauts. Mais il est aussi certain qu'il est connu que cela est arrivé en France, qu'il faut qu'un jour ou l'autre, il repasse entre les mains de la nation pour subir une réforme constitutionnelle. Si la France, avec un revenu de près de 600 millions de livres, une étendue de pays riche et fertile, quatre fois plus considérable que l'Angleterre, une population de 24 millions d'habitants, pour supporter les taxes, avec plus de 2 milliards de numéraires en circulation et une dette moins considérable que celle de l'Angleterre, a été obligé, n'importe par quelle cause, d'en venir à régler ses affaires, cela résout le problème des fonds dans les deux pays. Il n'entre pas dans la question d'examiner depuis quand ce que l'on appelle la Constitution anglaise existe et de tirer de là des conséquences sur sa durée. La question est de savoir combien de temps le système des fonds publics peut durer. Ce système est d'invention moderne et n'a pas encore passé une génération. Cependant, dans ce court espace de temps, il a fait tant de progrès qu'en comptant les dépenses courantes de l'administration, il exige une somme de taxes au moins égale aux revenus de toutes les terres pour satisfaire aux besoins de l'État. Il doit être évident à tout le monde qu'un gouvernement n'aurait pas toujours pu suivre le système qu'il a adopté depuis 70 ans. Et par la même raison, il ne peut pas toujours le suivre. Le système des fonds n'est pas de l'argent. À proprement parler, ce n'est pas non plus du crédit. Il crée sur le papier la somme qu'il paraît emprunter, met un impôt pour soutenir le capital imaginaire par le paiement de l'intérêt, et envoie l'annuité au marché afin de la vendre pour du papier déjà en circulation. Si on donne quelques crédits, c'est à la disposition où est le peuple de payer la taxe et non pas au gouvernement qui la met. Quand cette bonne volonté de la part du peuple cesse, ce que l'on prenait pour le crédit du gouvernement cesse aussi. L'exemple de la France sous l'Ancien Régime montre qu'il est impossible de forcer le paiement des impôts quand une nation entière est déterminée à s'y opposer. M. Burke, dans son exposé des finances de la France, estime la quantité d'or et d'argent en circulation dans ce royaume à environ 2 milliards 112 millions. En faisant son calcul, il a sans doute divisé selon le cours du change au lieu d'évaluer une livre sterling à un louis. Car l'état des finances de France de M. Necker, dont M. Burke a tiré le sien, est de 2 milliards 200 millions. M. Necker en France et M. George Chalmers du Bureau du commerce et des plantations en Angleterre, dont Milord Hawkesbury est président, publièrent à peu près dans le même temps un compte de la quantité de numéraire qu'il y avait dans chaque nation, fondé sur les retours de la Chambre des monnaies de chaque nation. M. Chalmers estime la quantité d'argent circulant en Angleterre, y comprise l'Écosse et l'Irlande, à 480 millions tournois. M. Necker dit que le montant du numéraire de France, après la refonte de la vieille monnaie, était de 2 milliards 500 millions, et après avoir fait une déduction pour ce qui va dans les îles et pour toutes les autres circonstances possibles, il estime celui qui reste dans la circulation en France à 2 milliards 200 millions. Mais en la supposant telle que l'a faite M. Burke, c'est 1 milliard 800 millions de plus qu'en Angleterre. On peut voir que la quantité de numéraire en circulation en France ne saurait être au-dessous de cette évaluation par l'état de son revenu sans avoir pour cela recours au registre de la monnaie. Le revenu de la France, avant la Révolution, était de près de 600 millions de livres. Et comme il n'y avait pas alors de papier, ce revenu se payait en or et en argent, et il aurait été impossible de lever un pareil revenu sur une moindre quantité d'or et d'argent que ne l'a estimé M. Necker. Avant l'établissement des billets de banque en Angleterre, le revenu était environ le quart du montant de l'or et de l'argent, comme on peut le voir en consultant les registres des revenus antérieurement au roi Guillaume, et par la quantité d'argent estimée en circulation dans ce temps-là, qui était à peu près la même qu'aujourd'hui. Il ne peut être d'aucun service à une nation de s'en imposer à elle-même ou de s'en laisser imposer. Mais les préjugés de plusieurs personnes et la fourberie des autres ont toujours représenté la France comme une nation qui ne possédait que peu d'argent, au lieu que la quantité qu'elle en possède est non seulement 4 fois plus considérable que celle de l'Angleterre, mais outre cela, beaucoup plus grande en proportion du nombre de ses habitants. Pour rendre compte de ce déficit du côté de l'Angleterre, il faut examiner son système de fonds. L'opération de ce système est de multiplier le papier et de le substituer en place de l'argent sous différentes formes. Et plus le papier est multiplié, plus il y a d'occasion d'exporter les espèces. Il serait même possible, en l'étendant à l'émission de petits billets, de faire tout à fait disparaître le numéraire. Je sais que ce sujet n'est pas agréable à des lecteurs anglais, mais les matières que je vais traiter sont d'une telle importance en elles-mêmes qu'elles exigent l'attention de tous ceux qui sont intéressés dans les affaires d'argent d'une nature publique. Il y a une circonstance dont M. Necker fait mention dans son traité sur l'administration des finances, à laquelle les Anglais n'ont jamais fait attention, mais qui forme la seule base sur laquelle on peut calculer la quantité d'or et d'argent qui doit être en circulation chez toutes les nations de l'Europe pour en conserver une proportion relative avec les autres nations. Lisbonne et Cadix sont les 2 ports dans lesquels tout l'or et l'argent venant de l'Amérique méridionale sont importés. Ces métaux se répandent ensuite dans toute l'Europe par le moyen du commerce et augmentent la quantité de l'argent monnayé dans toutes les parties de l'Europe. Si donc on peut en connaître l'importation annuelle en Europe, et si la proportion relative du commerce avec l'étranger des différentes nations auxquelles ils sont distribués peut être évaluée, cela donne une règle assez sûre pour estimer la quantité d'argent qu'il doit y avoir dans chaque nation, dans tous les temps. M. Necker, par les registres de Lisbonne et de Cadix, montre que l'importation de l'or et de l'argent en Europe est de 5 millions sterling, 120 millions tournois, annuellement. Il n'a pas fait ce calcul sur l'importation d'une année, mais sur celle de 15 années consécutives, depuis 1763 jusqu'en 1777 inclusivement, et dans cet espace de temps, l'importation a été d'1 800 000 000 tournois, ce qui fait 75 millions sterling. Depuis le commencement de la succession de Hanovre en 1714, jusqu'au temps où M. Chalmers a publié son ouvrage, il y a un espace de 72 ans. Et la quantité d'or et d'argent importée en Europe dans cet espace de temps devrait être de 360 millions sterling, à peu près 10 milliards tournois. Si l'on estime le commerce de la Grande-Bretagne avec l'étranger à la 6e partie de tout le commerce étranger de l'Europe, ce qui est peut-être une estimation inférieure à ce qu'en disent ces messieurs de la Bourse, la proportion que l'Angleterre devrait retirer de cette somme par le commerce pour être à l'unisson du reste de l'Europe devrait être aussi 1/6, ce qui fait 1 milliard 440 millions. Et si l'on fait la même déduction pour les colonies et les autres circonstances de l'Angleterre que M. Necker fait pour la France, la quantité qui doit rester en circulation après cette déduction sera d'1,248 milliard tournois ou de 52 millions sterling. Et cette somme doit avoir été dans la nation au temps où M. Chalmers publia son ouvrage, outre celle qui y était déjà au commencement de la race hanovrienne, et avoir fait en tout au moins 1,584 millions tournois, 60 millions sterling. Au lieu de cela, il n'y en avait que 480 millions, 20 millions sterling, ce qui fait 1,104 milliards tournois, au-dessous de sa quantité proportionnelle. Comme la quantité d'or et d'argent importée dans Cadix peut être plus exactement connue que celle des marchandises importées en Angleterre, et comme la quantité d'espèces frappées à la Tour de Londres est encore plus positivement connue, les points principaux ne peuvent souffrir aucune contradiction. Donc, où le commerce d'Angleterre ne rapporte aucun profit, où l'or et l'argent qu'il rapporte s'enfuient continuellement par des crevasses invisibles, au taux d'environ 750 000 livres sterling par an, ce qui, dans le cours de 72 ans, occasionne ce déficit et on y supplée par du papier. La Révolution de France est accompagnée d'une multitude de circonstances nouvelles, non seulement dans le monde politique, mais dans le cercle des affaires d'argent. Entre autres choses, elle prouve qu'un gouvernement peut être insolvable et une nation riche. En tant que ce fait a rapport au ci-devant gouvernement de France, il devint insolvable parce que la nation ne voulut pas plus longtemps soutenir son extravagance et il ne put se soutenir lui-même. Mais quant à la nation, elle avait tous les moyens de payer. On peut appeler un gouvernement insolvable toutes les fois qu'il s'adresse à la nation pour payer ses arrérages. L'insolvabilité du ci-devant gouvernement de France et celle du gouvernement actuel d'Angleterre ne diffèrent qu'en ce que la disposition du peuple diffère. Le peuple français refusa les subsides à l'ancien gouvernement, et le peuple anglais se soumet à toutes les taxes sans examen. Ce que l'on appelle la couronne a été plusieurs fois insolvable en Angleterre. La dernière fois fut en mai 1777, lorsqu'elle s'adressa au Parlement pour payer plus de 14 400 000 de dettes particulières qu'elle n'aurait pas pu payer sans assistance. Ce fut une erreur commune, M. Pitt, à M. Burke et à tous ceux qui n'étaient pas instruits des affaires de France, de confondre la nation française avec le gouvernement français. Il est vrai que la nation s'efforça de rendre le ci-devant gouvernement insolvable, afin de s'emparer elle-même des rênes, et elle a réservé tous ses moyens pour le soutien du nouveau gouvernement. Dans un pays aussi vaste et aussi peuplé que l'est la France, les moyens naturels ne sauraient manquer. Et les moyens politiques paraissent du moment où la nation est disposée à les permettre. Quand M. Burke, dans un discours prononcé l'hiver dernier dans le Parlement britannique, jeta les yeux sur la carte d'Europe et vit un vide à l'endroit où était la France, il parla comme un homme qui rêve. La même France existait alors ainsi que ses mêmes moyens naturels. Le seul vide était celui que l'extinction du despotisme avait laissé, et qui devait être rempli par une constitution plus puissante en ressources que le pouvoir qui venait d'expirer. Quoique la nation française ait rendu l'ancien gouvernement insolvable, elle n'a pas permis que les créanciers souffrissent de cette insolvabilité. Les créanciers, de leur côté, considérant la nation comme le véritable payeur et le gouvernement seulement comme son agent, aimèrent mieux avoir affaire à la nation qu'au gouvernement. Cela paraît beaucoup troubler M. Burke, parce que c'est funeste à la politique par laquelle les gouvernements se croyaient assurés. Ils ont contracté des dettes dans le dessein de s'attacher ce que l'on appelle les capitalistes de la nation et de les intéresser à leur soutien. Mais l'exemple de la France démontre que la sûreté permanente du créancier gît dans la nation et non pas dans le gouvernement. Et que dans toutes les révolutions possibles des gouvernements, les moyens sont toujours dans la nation et que la nation existe toujours. M. Burke dit que les créanciers auraient dû subir le sort du gouvernement auquel ils avaient eu confiance. Mais l'Assemblée nationale les considéra comme les créanciers de la nation, et non pas comme les créanciers du gouvernement, comme les créanciers du maître, et non pas de l'intendant. Quoique l'ancien gouvernement ne pût suffire aux dépenses courantes, le gouvernement actuel a remboursé une grande partie du capital. Cela a été effectué par deux moyens. Le premier en diminuant les dépenses du gouvernement et l'autre par la vente des biens du clergé. Les bigots et les débauchés convertis, les déprédateurs et les usuriers du temps passé, pour s'assurer un meilleur monde que celui qu'ils allaient laisser, avaient légué des biens immenses au clergé pour des usages pieux. Et les prêtres s'en étaient emparés. L'Assemblée nationale a ordonné qu'ils fussent vendus pour le bien de la nation et a pourvu décemment à l'entretien du clergé. En conséquence de la Révolution, l'intérêt annuel de la dette de France sera diminué au moins de 144 millions en payant plus de 2,4 milliards du capital. Ce qui, en diminuant les premières dépenses du gouvernement au moins de 72 millions, placera la France dans une situation digne de l'imitation de l'Europe. En faisant une revue générale de tout le sujet, que le contraste est immense. Tandis que M. Burke parlait d'une banqueroute générale en France, l'Assemblée nationale payait une partie du capital de sa dette. Et tandis que les taxes se sont accrues de près de 24 millions tournois annuellement en Angleterre, elles ont diminué de plusieurs millions en France. M. Burke et M. Pitt n'ont pas dit un mot des affaires de France ou de l'état de finances de France dans la présente session du Parlement. Le sujet commence à être trop bien entendu, et en imposer n'est plus de saison. Le livre de M. Burke est une énigme continuelle, depuis un bout jusqu'à l'autre. Il est furieux contre l'Assemblée nationale. Mais de quoi est-il furieux? Si ses assertions étaient aussi vraies qu'elles sont mal fondées, et si la France, par sa révolution, avait anéanti sa puissance et était devenue ce qu'il appelle un vide, cela pourrait exciter la douleur d'un Français, comme appartenant à la nation, et provoquer sa rage contre l'Assemblée nationale. Mais comment cela peut-il exciter la rage de M. Burke? Hélas, ce n'est pas de la nation française dont M. Burke veut parler, mais de la cour de France, et toutes les cours de l'Europe, craignant le même sort, sont en deuil. Il n'écrit ni comme un Français, ni comme un Anglais, mais comme cette créature rampante, connue dans tous les pays, et qui n'est l'ami d'aucun, sous le nom de courtisan. Que ce soit la cour de Versailles, ou la cour de St. James, ou l'hôtel de Carlton, ou la cour à venir, cela est indifférent, car les principes chenilles des cours et des courtisans sont les mêmes. Ils ont une politique commune dans toute l'Europe. Détachés et séparés de l'intérêt des nations, et en paraissant se quereller, ils s'accordent pour piller. Rien ne saurait être plus terrible pour une cour ou pour un courtisan que la Révolution de France. Ce qui fait le bonheur des nations est un supplice pour eux, et comme leur existence dépend de la duplicité d'un pays, ils tremblent à l'approche des principes et craignent l'exemple qui menace leur ruine. Conclusion. La raison et l'ignorance, aussi opposées entre elles que la lumière et les ténèbres, gouvernent la masse du genre humain. Si l'un ou l'autre est suffisamment répandu dans un pays, le mécanisme du gouvernement se meut avec beaucoup de facilité. La raison obéit à la raison, et l'ignorance se soumet à ce qu'on lui dicte. Les deux formes de gouvernement qui sont les plus communes dans le monde sont d'abord le gouvernement par élection et par représentation, secondement, le gouvernement par succession héréditaire. Le premier est généralement connu par le nom de république, le dernier par celui de monarchie et d'aristocratie. Ces deux formes distinctes et opposées s'élèvent sur les deux bases, distinctes et opposées, de la raison et de l'ignorance. Comme l'exercice du gouvernement demande des talents et de la capacité, et comme les talents et la capacité ne sauraient être héréditaires, il est évident que la succession héréditaire exige de l'homme une croyance à laquelle sa raison ne saurait souscrire et qui ne peut s'établir que sur son ignorance. Et plus un pays est dans l'ignorance, plus il est propre à cette espèce de gouvernement. Au contraire, dans une république bien constituée, le gouvernement n'exige d'autres croyances de l'homme que celles que la raison peut donner. Il voit le raisonnable de tout le système, son origine et sa manière d'opérer. Et comme il est d'autant mieux soutenu qu'il est mieux entendu, les facultés humaines agissent avec hardiesse et acquièrent sous cette forme de gouvernement une virilité gigantesque. Comme donc chacune de ces formes agit sur une base différente, l'une se mouvant librement par l'aide de la raison, l'autre par celle de l'ignorance, nous avons encore à examiner ce qui donne un mouvement à cette espèce de gouvernement, appelé gouvernement mixte, ou, comme on l'appelle quelquefois en plaisantant, un gouvernement de ceci, de cela et d'autre chose. Le grand ressort qui fait mouvoir cette espèce de gouvernement est nécessairement la corruption. Quelque imparfaites que soient les élections et la représentation des gouvernements mixtes, elles mettent cependant en exercice une plus grande partie de la raison que cela ne convient à la partie héréditaire. C'est pourquoi il devient nécessaire de corrompre ou d'acheter la raison. Un gouvernement mixte est un tout imparfait, cimentant et soudant ensemble les parties discordantes par la corruption pour les faire agir comme une seule masse. M. Burke paraît fort mécontent de ce que la France, puisqu'elle a résolu de faire une révolution, n'a pas adopté ce qu'il appelle la Constitution anglaise. Et le ton douloureux avec lequel il s'exprime à cette occasion laisse apercevoir un soupçon que la Constitution anglaise avait besoin de quelque chose pour conserver son crédit. Dans les gouvernements mixtes, il n'y a pas de responsabilité. Les parties se couvrent les unes les autres jusqu'à ce que la responsabilité ne soit plus visible, et la corruption qui fait mouvoir toute la machine se réserve toujours des moyens d'évasion. Quand on pose pour maximum qu'un roi ne saurait faire mal, cela le place dans l'état de sécurité des imbéciles et des fous, et la responsabilité ne le regarde plus lui-même. Elle tombe donc sur son ministre qui s'enveloppe dans une majorité du Parlement, qu'il peut toujours commander par le moyen des places, des pensions et de la corruption, et cette majorité se justifie par la même autorité avec laquelle elle protège le ministre. Dans ce cercle vicieux, la responsabilité est rejetée des partis et du tout. Quand il y a une partie dans un gouvernement qui ne peut pas faire mal, cela implique qu'elle ne fait rien, et qu'elle n'est que la machine d'une autre puissance par la vie et la direction de laquelle elle agit. Ce que l'on suppose être le roi dans les gouvernements mixtes, c'est le Conseil. Et comme le Conseil fait toujours partie du Parlement, et que les membres justifient ce qu'ils conseillent et font sous un autre, un gouvernement mixte devient une énigme continuelle. Greffant sur un pays, à cause de la quantité de corruption nécessaire pour en réunir les partis, une dépense suffisante pour supporter toutes les formes de gouvernement à la fois et se résolvant finalement en gouvernement par comité, dans lesquels les conseillers, les acteurs, les approbateurs, les justificateurs, les personnes responsables et les personnes non responsables sont les mêmes personnages. Par cette machinerie et ce changement de scène et de caractère, les acteurs s'aident mutuellement dans des rôles qu'ils ne voudraient pas entreprendre de jouer seuls. Quand il est question d'obtenir de l'argent, cette masse de variétés se dissout en apparence et les parties se donnent réciproquement beaucoup de louanges parlementaires. Chacune admire avec étonnement la sagesse, la libéralité, le désintéressement de l'autre, et toutes poussent un soupir de compassion en considérant les fardeaux de la nation. Mais dans une république bien constituée, il ne saurait exister la moindre trace de ces soudures, de ces louanges et de cette pitié. La représentation étant égale dans tout le pays et complète en elle-même, de quelque manière qu'on puisse la diviser, soit en branches législatives et exécutrices, toutes dérivent de la même source. Les parties ne sont pas étrangères les unes aux autres, comme il en est de la démocratie, de l'aristocratie et de la monarchie. Comme il n'y a pas de distinction discordante, il ne faut rien corrompre par des compromis ni rien confondre par l'artifice. Les mesures publiques en appellent au bon sens de la nation, et fortes de leur propre mérite, désavouent toute adresse de flatterie à la vanité. Une jérémiade continuelle sur le fardeau des taxes, avec quelque succès qu'on puisse en faire usage dans les gouvernements mixtes, n'est pas conforme au sens et à l'esprit d'une république. Si les taxes sont nécessaires, c'est sans doute parce qu'elles sont avantageuses. Mais si elles exigent des excuses, ces excuses contiennent quelque chose de criminel. Pourquoi donc en impose-t-on de cette manière à l'homme, ou plutôt pourquoi s'en impose-t-il à lui-même? Quand on parle des hommes en les divisant en rois et en sujets, ou quand on fait mention d'un gouvernement sous les formes distinctes ou combinées de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie, qu'est-ce qu'un homme raisonnable peut entendre à ces expressions ? S'il y avait effectivement dans le monde deux ou plusieurs éléments du pouvoir humain, nous pourrions remonter aux différentes origines auxquelles ces expressions auraient rapport. Mais comme il n'y a qu'une seule espèce d'homme, il ne saurait y avoir qu'un élément du pouvoir humain. Et cet élément, c'est l'homme lui-même. La monarchie, l'aristocratie et la démocratie ne sont que les créatures de l'imagination, et on pourrait aussi bien créer 1000 expressions semblables que 3. Par les révolutions de l'Amérique et de la France, et les symptômes qui ont paru dans d'autres pays, il est évident que l'opinion des hommes est changée par rapport au système de gouvernement, et que les révolutions ne peuvent être prévues ou empêchées par aucun calcul politique. Le progrès du temps et des circonstances sur lequel on calcule l'accomplissement des grands changements est trop mécanique pour mesurer la force de l'esprit et la rapidité de la réflexion par lesquelles les révolutions sont engendrées. Tous les anciens gouvernements en ont reçu un ébranlement déjà visible, qui était autrefois plus improbable et qui est un plus grand sujet de surprise que ne le serait aujourd'hui une révolution générale dans toute l'Europe. Quand nous considérons la misérable condition de l'homme sous les formes monarchiques et héréditaires de gouvernement, arraché de ses foyers par un pouvoir ou chassé par un autre, et plus appauvri par les taxes que par les ennemis, il est évident que ces formes sont mauvaises, et qu'une révolution générale dans les principes et dans la construction des gouvernements est nécessaire. Qu'est-ce qu'un gouvernement, sinon l'administration des affaires d'une nation ? Il n'est et ne saurait être la propriété d'aucun homme, ni d'aucune famille, mais de toute la communauté aux dépens de laquelle il est soutenu. Et quoique par force ou par ruse, on les fait passer pour un héritage, l'usurpation ne saurait changer la nature des choses. La souveraineté, de droit, appartient à la nation seule et non à aucun individu. Une nation a, dans tous les temps, un droit inhérent et inaliénable d'abolir toute forme de gouvernement qu'elle ne trouve pas convenable, et d'en établir une qui convienne à ses intérêts, à son goût et à son bonheur. La distinction romanesque et barbare des hommes en rois et en sujets, quoiqu'elle puisse convenir à la condition du courtisan, n'est point propre à celle de citoyen et est abolie par les principes sur lesquels les gouvernements sont aujourd'hui fondés. Chaque citoyen est une portion de la souveraineté et comme tel ne peut reconnaître aucune suggestion personnelle et ne doit obéir qu'aux lois. Quand on réfléchit sur la nature d'un gouvernement, on doit nécessairement supposer qu'il possède la connaissance de tous les objets et de toutes les matières sur lesquelles il doit exercer son autorité. En considérant le gouvernement sous ce point de vue, la forme républicaine, telle qu'elle est établie en Amérique et en France, tend à embrasser l'ensemble d'une nation. Et les connaissances nécessaires aux intérêts de toutes ces parties se trouvent dans un centre commun que les parties forment par le moyen de la représentation. Mais les anciens gouvernements sont d'une construction qui exclut les connaissances ainsi que le bonheur. Un gouvernement de moines, qui ne savent ordinairement que ce qui se passe dans l'enceinte de leur couvent, serait aussi conséquent qu'un gouvernement de rois. Ce que l'on appelait autrefois révolution n'était guère qu'un changement de personne ou une altération de circonstances locales. Conséquemment, elles parurent et disparurent comme leurs objets, et elles n'eurent rien dans leur existence ou dans leur destinée qui pût avoir aucune influence au-delà de l'endroit où elles prirent naissance. Mais ce que nous voyons actuellement dans le monde, par les révolutions de l'Amérique et de la France, sont une régénération de l'ordre naturel des choses, un système de principes aussi universel que la vérité et l'existence de l'homme, et une combinaison de la félicité morale et politique et de la prospérité des nations. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. 3. le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Dans ces principes, il n'y a rien qui puisse mettre une nation en désordre en excitant son ambition. Ils sont destinés à faire ressortir la sagesse et les talents et les employer pour le bien public, et non pas pour l'émolument ou l'agrandissement d'une classe particulière d'hommes ou de familles. La souveraineté monarchique, ennemie du genre humain et source de ses maux, est abolie, et la souveraineté elle-même remise à sa place naturelle et originaire, la nation. S'il en était ainsi dans toute l'Europe, la cause des guerres serait anéantie. On dit d'Henri IV de France, homme d'un cœur excellent, qu'il avait, vers l'année 1610, le projet d'éteindre les guerres en Europe. Ce projet était d'établir un congrès européen où, selon l'expression de l'auteur français, une république pacifique, en nommant des délégués de toutes les nations qui devaient agir comme une cour d'arbitrage dans toutes les disputes qui pourraient s'élever entre les nations. Si ce projet avait été adopté dans le temps où il fut proposé, les taxes de l'Angleterre et de la France, comme deux des parties, seraient de 240 millions moindres annuellement qu'elles ne l'étaient au commencement de la Révolution française. Pour connaître les raisons pour lesquelles un pareil plan ne fut pas mis en exécution, et pourquoi, au lieu d'établir un congrès pour prévenir les guerres, on ne l'a formé que pour terminer une guerre après une dépense inutile de plusieurs années, il sera nécessaire de faire voir que les intérêts des gouvernements sont différents de ceux de la nation. Ce qui occasionne un impôt sur une nation devient en même temps un moyen de revenu pour un gouvernement. Chaque guerre se termine par une augmentation d'impôts, et conséquemment par une augmentation de revenus. Et quel que soit l'événement, de la manière dont la guerre sont aujourd'hui commencée et terminée, le pouvoir et le crédit des gouvernements sont augmentés. La guerre, donc, à cause de sa fécondité, en tant qu'elle fournit un prétexte de nécessité pour les impôts et des nominations à des places et à des charges, devient une des principales parties du système des anciens gouvernements. Et établir une méthode quelconque d'anéantir la guerre, quelque avantageux que cela fût aux nations, serait ôter à de pareils gouvernements la plus belle partie de leur apanage. Les causes frivoles pour lesquelles on entreprend la guerre montrent la disposition et l'avidité des gouvernements pour soutenir le système de la guerre et dévoilent les motifs qui les font agir. Pourquoi les républiques ne sont-elles pas plongées dans des guerres? Parce que la nature de leur gouvernement n'admet pas un intérêt distinct de celui de la nation. La Hollande même, quoiqu'une république mal organisée et faisant un commerce qui s'étend dans toutes les parties du monde, fut près d'un siècle sans avoir de guerre. Et du moment où la forme du gouvernement fut changée en France, les principes républicains de la paix, de la prospérité publique et de l'économie s'élevèrent avec le nouveau gouvernement, et les mêmes causes produiraient les mêmes effets chez les autres nations. Comme la guerre est le système des gouvernements de l'ancienne fabrique, les haines que les nations entretiennent réciproquement les unes contre les autres ne sont autre chose que ce que la politique de leur gouvernement excite pour entretenir l'esprit de ce système. Chaque gouvernement accuse l'autre de perfidie, d'intrigue et d'ambition, comme un moyen d'échauffer l'imagination de leurs nations respectives et de les provoquer à des hostilités. L'homme ne devient l'ennemi de l'homme que par l'intermédiaire d'un faux système de gouvernement. Au lieu donc de crier contre l'ambition des rois, les cris devraient être dirigés contre le principe de pareil gouvernement. Et au lieu de chercher à réformer l'individu, la nation devrait s'appliquer à réformer le système. La question n'est pas d'examiner ici si les formes et les maximes des gouvernements encore existants étaient adaptées à l'état du monde au temps où elles furent établies. Plus elles sont anciennes, moins elles ont d'analogie avec l'état actuel des choses. Le temps et le changement de circonstances et d'opinions ont le même effet graduel sur les formes du gouvernement qu'ils ont sur les coutumes et sur les mœurs. L'agriculture, le commerce, les manufactures et les arts tranquilles, qui contribuent plus qu'autre chose à la prospérité des nations, exigent un différent système de gouvernement et une différente espèce de connaissance pour diriger ces opérations qu'il n'en fallait dans la première période du monde. comme il n'est pas difficile de s'apercevoir, par la masse des lumières répandues dans l'univers, que les gouvernements héréditaires tirent vers leur fin, et que les révolutions fondées sur les grandes bases de la souveraineté des nations et du gouvernement par représentation s'avancent à grands pas dans l'Europe, ce serait un acte de sagesse d'anticiper leur approche et de produire des révolutions par le moyen de la raison et des arrangements, plutôt que de les exposer à l'issue de convulsions. Ce que nous croyons nous prouve qu'il n'y a aucune réforme improbable dans le monde politique. Nous sommes dans un siècle de révolution dans lequel on doit s'attendre à tout. L'intrigue des cours qui nourrit le système de la guerre peut exciter les nations à former une confédération générale pour l'anéantir. Et l'établissement d'un congrès européen pour protéger les progrès et propager la civilisation et les liaisons des nations est un événement plus probable que ne l'étaient autrefois les révolutions et l'alliance de la France et de l'Amérique. Fin de la première partie.